cette affiche en entrant ce matin devant la porte du temple. Il y en a une sur la porte, une à droite, une à gauche. C'est une affiche à l'initiative de Pax Christi, qui est un mouvement catholique, et de la Fédération protestante de France. Et cette affiche nous invite cette année à goûter Noël autrement. Un Noël où nous préférerions la qualité à la surabondance, où nous rechercherions les produits locaux sans emballage inutile, où nous choisirions de favoriser le commerce équitable, et où nous inviterions une personne seule à partager la fête avec nous. Imaginons donc que cette année, nous voulions fêter Noël autrement. Imaginez-vous, parents, vous qui souhaitez donner une éducation religieuse à vos enfants, que cette année, Noël sera différent. Imaginez-vous les catéchumènes, qu'en achetant vos cadeaux cette année, vous pensiez à ceux qui les fabriquent et dans quelles conditions, plutôt qu'à l'effet qu'ils auront sur vos copains. Imaginons, rêvons que cette année, effectivement, nous recevions chez nous une personne isolée, sans famille et avec peu de moyens pour partager notre repas et notre journée. Imaginons, rêvons encore, que dans cette démarche du Noël autrement, nous voulions aussi, tant qu'on y est, témoigner à cette personne de notre foi de chrétien et parler de Noël pour nous. Le témoignage volontaire n'est pas vraiment dans nos habitudes réformées. Mais soyons fous. Allez, cette année, nous le ferons. Qu'allons-nous lui dire ? Pour moi, Noël, c'est la naissance de Jésus-Christ, Fils de Dieu, envoyé pour nous. À Noël, un Sauveur nous est donné, dans sa naissance et dans sa mort, pour nous pardonner et nous libérer. Et cette naissance est pour moi la bonne nouvelle, car Jésus-Christ me donne la vie chaque jour. Plein de zèle, nous décidons même d'ouvrir la Bible et de lui lire un passage. Nous nous plongeons naturellement en cette période dans les évangiles. Cela tombe bien, car l'Ancien Testament et les Épîtres sont bien plus difficiles. Nous choisissons le premier évangile, celui de Matthieu. Nous regardons, nous cherchons un passage vers le début de l'évangile, allez, chapitre 3. Et nous arrivons à notre texte de ce matin. Nous sommes au début de l'évangile de Matthieu. Et évangile veut dire « bonne nouvelle ». En sachant cela, et en vous rappelant du texte de Matthieu que je viens de lire, il y a manifestement un problème. Vous ne croyez pas ? Jean le Baptiste annonce le royaume de Dieu au verset 2. Très bien. Mais cela se complique. Juste après, le même Jean parle de colère de Dieu, traite les gens de vipères, parle d'une hache qui va s'attaquer à ceux qui font du mal et dit que tous ceux qui ne changent pas de vie seront jetés au feu. Et si on regarde juste avant notre passage, c'est le roi Hérode qui fait tuer tous les nouveau-nés garçons. Horreur. Il n'y a pas à dire, et je suis sûre que vous êtes d'accord avec moi, des bonnes nouvelles comme celle-là, on s'en passe bien volontiers. Alors si, le soir de Noël, nous partageons ce texte avec notre invité surprise, c'est sûr, il nous prendra pour fou. Mais si les évangiles veulent bien dire bonne nouvelle, c'est que même ce texte en contient une. Alors où est-elle ? Où es-tu, Jésus le Sauveur, dans ce texte ? Que me dis-tu ici, toi, mon Dieu, qui envoie ton Fils pour moi à Noël ? Qu'est-ce que je pourrais dire à mon invité déçu de la soi-disant bonne nouvelle, finalement plutôt mauvaise ? Je sais, vous pensez déjà et vous allez me dire que je peux m'arrêter là, puisque de toute façon, cela n'arrivera pas. Déjà que l'on ne sait pas si oncle Jacques sera là, si finalement les cousins de maman seront rentrés à temps des États-Unis pour être avec nous, et encore si cette année mon frère arrivera à convaincre sa femme de passer Noël avec sa belle famille, et tout ce brave monde qui compte sur moi pour les nourrir. Bref, avec tous ces aléas, vous ne pensez tout de même pas que nous allons en plus inviter un inconnu? De toute façon, hors de question de parler de ma foi à table. C'est comme l'argent ou la politique, c'est tabou. Mais quand bien même, je ne prendrai pas le risque de lire un passage biblique. Vous n'avez jamais remarqué sur la Bible ce qui est écrit sur la première page? Réservé au pasteur. Regardez bien, c'est écrit. Et même si j'avais osé, bien malin, j'aurais choisi un texte bien plus facile, je l'aurais choisi avant et je l'aurais préparé. D'accord, je vous crois. Mais malgré tout, et puisque cela fait vraiment partie de mon travail, vous annoncer une bonne nouvelle en chair le dimanche matin, je continue à vouloir rêver. Ce texte est dur comme de la pierre, c'est vrai, mais il n'est pas le seul. Ils sont souvent dans l'Ancien Testament, mais il y en a aussi beaucoup dans le Nouveau Testament. Et finalement, j'aurais mieux fait de choisir le texte d'Ésaïe que je vous ai lu. Le loup habitera avec l'agneau, le veau et le lion mangeront ensemble, le bébé jouera dans le nid du serpent, il n'y aura plus ni mal ni violence, la gloire de Dieu brillera. Vous n'allez peut-être pas me croire, mais ce matin, nous trouvons notre bonne nouvelle dans une simple conjonction de coordination, mais, M-A-I-S, au verset 11. Dans ce verset, Jean le Baptiste dit « Moi, je vous baptise dans l'eau pour montrer que vous changez votre vie, mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi. Je ne suis pas digne de lui enlever ses sandales. Lui, il vous baptisera avec le feu de l'Esprit Saint. » Ce petit mot « mais » donne toute son importance à ce Messie qui est annoncé. Moi, Jean, je vous dis des tas de choses, je vous baptise même, je vous guide comme je peux. Mais lui est bien au-delà de tout cela. Sa puissance n'a pas d'égal, son amour pas de limite, son action est insondable et sa parole est une force. Vous ne pouvez même pas vous imaginer. Personne ne le peut tant qu'il ne le vit pas. Moi, Jean, je ne suis rien à côté de lui. Moi, pasteur qui vous parle maintenant, je ne suis rien. Car c'est ce Jésus qui vient à Noël dans une mangeoire qui nous donne la vie, la vraie vie. Et l'Évangile n'est rien tant qu'il ne vit pas en nos cœurs, en Jésus-Christ. La voilà, la bonne nouvelle pour ce matin. Et vous le savez bien, une parole que l'on reçoit, si belle soit-elle, ne signifie rien tant qu'elle ne devient pas parole de vie pour nous. Ces paroles de Jean ne sont rien pour nous ce matin, si elles ne nous disent pas une bonne nouvelle. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi. Je ne suis pas digne de lui enlever ses sandales. Lui, il vous baptisera avec le feu de l'Esprit Saint. Ces paroles signifient-elles quelque chose pour vous ce matin? Ainsi, tout ce que je peux vous dire reste lettre morte si elle ne touche pas vos cœurs. Et demain, nous pourrons balayer tous ces mots, tomber au pied de la chair et les jeter au feu. Comment alors une parole peut devenir bonne nouvelle pour vous et parole de Dieu? C'est tout simplement la demande que nous formulons dans notre prière avant de lire la Bible. Nous demandons à l'Esprit d'être avec nous pour que les paroles humaines que nous allons entendre touchent nos cœurs. Voilà qui est dit, l'Esprit. l'Esprit Saint, l'Esprit de Dieu. À Limoges, des branches du sapin de la couronne de l'Avent qui reste toujours verte malgré l'hiver. C'est lui et lui seul qui nous donne la vie, même au milieu de nos hivers les plus rudes. À l'image des bougies allumées, symbole de la lumière, c'est lui et lui seul qui fait rayonner une parole et lui donne son éclat dans nos vies. Vous allez peut-être me dire, mais elle parle de l'Esprit Saint pour Noël, étrange. Non. À Noël, c'est l'Esprit qui vient habiter nos cœurs en Jésus-Christ. Et cette année, l'Esprit nous invite à goûter Noël autrement. Viens, Esprit consolateur. Viens, Esprit libérateur. Viens, Esprit de joie. Viens, Saint-Esprit, viens. Tu viens nous sauver très bientôt. Viens maintenant. Nous t'attendons.